La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Comment l'incarnation du Verbe va changer notre rapport au tout, c'est-à-dire au corps mystique? L'incarnation du Verbe. En cette montée vers Noël, il s'agit de repenser le corps. Le mouvement de descente du Fils vers les hommes, qui quitte le sein du Père, oblige ensuite les hommes à repenser leur rapport au corps, en l'occurrence au corps mystique. Qu'est-ce que le corps mystique? On pourrait dire que dans la théologie chrétienne, le corps mystique n'est pas un simple rassemblement de fidèles sous la bannière de l'Église. Le corps mystique implique que le croyant s'attache à sa particularité et à sa solitude pour s'unir au Christ, par le biais bien sûr des sacrements du baptême et de l'Eucharistie, mais surtout par celui de l'oraison, et de faire un seul corps avec lui. Du coup, le corps mystique n'est rendu possible que par le mystère de Noël, c'est-à-dire celui de l'incarnation. Deuxième note, dans ce corps mystique, par la communion, le chrétien incorpore le Christ sous les espèces du pain et s'incorpore à lui. On pourrait dire qu'il participe ainsi à la vie du Fils de Dieu. Il va souffrir, mourir et ressusciter avec lui, ne constituant au fond qu'une seule chair avec lui. Donc vous voyez que du corps, nous sommes passés à chair. Autrement dit, si l'on veut réfléchir sur le corps mystique, ce n'est pas un corps matériel, mais bien une entité spirituelle. Le corps mystique est ce corps glorieux du Christ auquel les bienheureux qui seront sauvés s'uniront. Mais voyez déjà qu'il y a deux sens dans le corps mystique. Le premier va désigner le pain lui-même, le corps mystique. L'autre va désigner l'assemblée des fidèles, des chrétiens. On peut dire que de la même manière que le corps mystique implique une transformation des fidèles en membres de l'Église du Christ, le corps glorieux suppose une transfiguration du corps charnel. Ce mystère de l'incarnation oblige à penser autrement le rapport de la matière à la mystique, de la chair à la gloire. Un texte va nous servir de référence, c'est celui de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Nous sommes au chapitre 15, dans les versets 42-43 que vous connaissez. On est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. Le corps spirituel désigne, pour saint Paul, le corps glorieux et incorruptible, délivré de la chair après la résurrection. Le corps spirituel s'oppose ici au corps psychique, qui lui est soumis au péché, à la douleur et à la mort. Le corps psychique habité par l'esprit échappe à la loi du péché des membres terrestres. Il en résulte une renaissance, une transformation de l'homme ressuscité d'entre les morts. Si on peut parler d'existence d'un corps spirituel, c'est qu'elle repose sur le mystère de la résurrection révélée par le Christ et donc sur le mystère de l'incarnation. Cette présentation du paysage n'est pas sans soulever de grands problèmes qui vont marquer l'histoire de la patristique et l'histoire de la théologie. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur un penseur du 9e siècle, né en probablement entre 800 et 810 en Irlande, au 9e siècle, Jean Scott Erigène, qui enseigne ensuite à l'école palatine de Charles le Chauve, a traduit le corpus de Denis l'Aréopagite. Il a rédigé plusieurs ouvrages de philosophie et de théologie. Je vais en citer deux. De la prédestination, qu'on date de 851, et de la division de la nature un peu plus tard, en 865. Pourquoi s'arrêter sur ce théologien ? Parce qu'il y a une pensée philosophique. Nous sommes dans une émission de philosophie réaliste et nous allons voir que la proposition de Jean Scott Érigène sur le rapport entre corps mystique et corps concret, corps de chair, n'est pas sans poser des questions qui sont finalement celles du platonisme en relation avec ce qui va arriver plus tard et ce qui deviendra le thomisme. Voyons en quelle modalité se posent les termes du problème. Il s'agit de penser l'union du corps matériel et du corps spirituel. Reprenant la notion de corps spirituel telle qu'elle figure chez saint Paul, Jean Scott Érigène va s'efforcer de la rationaliser pour pouvoir rendre compte au fond du nœud de la nature humaine et éclairer les questions de sa chute et du péché. Jean Scott Érigène se démarque de la tradition paulinienne car il va admettre l'existence d'un corps spirituel dès la création de l'homme. Et du coup, il va concevoir la résurrection comme une restauration de la corporéité initiale de l'homme primordial. Vous voyez que c'est peu orthodoxe, mais pour lui, ce n'est pas une hérésie, dans la mesure où elle rend la résurrection claire, c'est intelligible, et ne fait qu'expliciter ses présupposés. C'est parce que le corps spirituel est présent dès le commencement qu'il peut réapparaître à la fin des temps. On est ici dans une approche, on va dire, conceptuelle, philosophique, qui veut rendre compte de manière claire d'un mystère. Allons plus près et regardons le texte. L'union d'une âme immatérielle, indivisible, incorruptible, et d'un corps qui est à l'opposé, c'est-à-dire matériel, divisible et corruptible, reste incompréhensible à plusieurs niveaux. D'une part, l'existence d'un corps physique en proie à la génération, à la putréfaction, à la corruption, semble contredire le principe théologique selon lequel Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Comment faire ? Si l'homme était vraiment créé selon le prototype divin, il ne devrait pas posséder un corps mortel. Car Dieu est immortel et tout ce que Dieu crée directement par lui-même est immortel selon le De Divisione Naturae, qu'on traduit par de la division de la nature. La finitude inhérente à la condition humaine constitue une énigme. Nul ne peut prétendre que cette condition humaine est alors à l'image de Dieu. Voici le texte. Selon le témoignage de l'Écriture sainte, notre nature n'a-t-elle pas été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu ? Ta question est oiseuse. Quiconque en doute n'est pas un homme. À ton avis, le Dieu qui a créé notre nature à son image est-il corps ou esprit ? Il serait également ridicule d'hésiter en ce qui concerne ce point, car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est donc pas selon le corps, mais selon l'âme, que l'image de Dieu est imprimée dans notre nature. C'est là une conclusion que nous devons tenir pour absolument vraie. Et je vais vous renvoyer donc au joli et magnifique petit livre de Chantal Jacquet, dans la collection Philosophie chez PUF, intitulé « Le corps ». Chantal Jacquet fait un commentaire de Jean Scott Érigène, très clair, et que j'ai choisi de vous faire entendre. Voici comment elle commente ce passage. « Il est donc clair que le corps physique mortel ne peut refléter le prototype divin. Seule l'âme est à même de ressembler à Dieu dans sa Trinité grâce à ses trois composantes, son essence, sa puissance et son opération, trois composantes qui correspondent respectivement à l'image du Père pour l'essence, du Fils pour la puissance et pour l'opération du Saint-Esprit. Dans ces conditions, comment expliquer la finitude des créatures empiriques, égarées, dans le monde sensible. Vous le pressentez déjà, l'approche de Jean Scott Érigène est marquée par un modèle ou un paradigme profondément platonicien, puisque le corps est rapporté au mouvement, à ce qui change et ce qui va vers la mort, alors que le corps mystique va être analogué à l'âme, qui chez Platon est immortelle, est éternelle, est incréée, et vient s'incarner, je reprends un terme chrétien, mais vient s'abaisser finalement dans la matière corporelle, pour ensuite remonter dans le ciel des idées, le monde de la temporalité et de l'éternité, après la mort du corps. La question que soulève donc cette union de l'âme et du corps est résolue par Jean Scott Érigène à partir de la possibilité de penser deux corps qui vont être donnés en même temps, de manière simultanée, pour l'homme. Contrairement aux composés matériels corruptibles, l'âme porte les marques de sa ressemblance au Créateur. Et cela n'implique pas que la nature humaine doive être conçue sans corps pour être à l'image de Dieu. Jean Scott Érigène prévient l'erreur qui consisterait à considérer que toute corporéité est par essence indigne de la création. Et là, vous sentez bien que le commentaire de Chantal Jacquet vient apporter un bémol à ce qu'on pourrait caractériser comme l'héritage platonicien. Je répète, il n'est pas absurde de dire que toute corporéité est par essence indigne de la création. Voici le texte. Ne va pas supposer que je veuille enseigner par ces paroles que la Trinité susdite de notre nature humaine, créée au paradis à l'image de Dieu, était absolument dépourvue de corps avant qu'elle eût péché. Loin, loin de moi, l'idée de souscrire à une telle thèse, ou de la professer d'une quelconque manière. C'est conjointement et simultanément que le Créateur créa nos âmes et nos corps au paradis, en entendant ici par « corps » les corps célestes et spirituels, tels que ces corps subsisteront après la résurrection. Car il est indubitable que les corps gonflés et corruptibles dont nous sommes accablés ici-bas doivent leur origine non point à la nature, mais au péché. Regardons bien, il y a encore ce substrat platonicien. Mais la différence, c'est que dans le monde antique, il n'y a pas la notion de péché, mais la notion de faute liée à celle du destin. Et dans le monde chrétien, celle de péché liée à celle de liberté. Ici, Jean Scott Érigène récupère la notion de péché pour continuer à conjoindre les deux corps de manière simultanée, le corps mystique et le corps concret. Mais vous le sentez bien, vous avez vu cet extrait, on retrouve une façon de voir éminemment platonicienne. Le commentaire de Chantal Jacquet nous éclaire. Il faut donc distinguer le corps spirituel, immuable et immortel dont l'homme est doté avant la chute, du corps terrestre et mortel dont il est affublé après l'acte pécamineux. Autrement dit, c'est le péché qui va servir de ligne de partage, là où chez Platon, c'était tout simplement le corps opposé au monde des idées.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Le corps spirituel relève de la nature et de la première création. Le corps mortel relève du péché et de la seconde création pour Jean Scott Érigène. Comment le penser ? Eh bien, tout simplement, c'est que l'acte créateur est un et indivis. Il pose à la fois un homme originel et sa chute que Dieu prévoit dans sa préscience. Je vous renvoie au commentaire de Chantal Jacquet sur le corps dans un petit livre intitulé « Le corps » dans la collection Philosophie chez Puf comme commentaire philosophique de Jean Scott Érigène qui nous permet de problématiser ce qu'on entend par « corps mystique » dans toutes ses acceptions. Vous avez d'ailleurs entendu un extrait de La Nativité de Messiaen, œuvre pour orgue absolument splendide. Du coup, on a ici deux corps au moment de la création de l'homme. L'un qui va être incorruptible, indivisible, immatériel, qui est le corps spirituel. Il excède non seulement le temps et le lieu, mais il échappe à toute détermination qualitative ou quantitative et ne se laisse pas enfermer dans une forme. Il se distingue de l'autre corps, le corps radicalement corruptible, mortel, variable dans l'espace et dans le temps, divisible dans le nombre de ses parties, hétérogène, soumis à un procès de croissance et de décroissance, sujet aux diverses qualités et quantités, enclin à toutes les impulsions irraisonnées. Vous le sentez ? Le problème va être celui de la mort. Qu'est-ce que la mort par rapport à ces deux corps ? La mort, pour Jean Scott Érigène, n'est pas un simple fait exprimant une nécessité biologique. Elle a une raison d'être qui excède la condition humaine originelle. La mort remet en cause la définition classique du corps, à savoir comme un être vivant qui naît, croît et meurt. Et la mort rompt avec la tradition, par exemple, augustinienne, selon laquelle le corps d'Adam recèle en lui de toute éternité les germes de la mort. Indivisible, inétendu et immortel, le corps spirituel est tout à fait semblable à Dieu et homogène à l'âme à laquelle il s'unit harmonieusement. La création à l'image de Dieu qui posait problème avec un seul corps devient claire pour Jean Scott Érigène. Elle est parfaitement intelligible si l'on admet cette existence originaire d'un corps spirituel qui porte la marque du Père, c'est-à-dire l'essence, et qui perdure de manière occulte après la chute en vertu de la permanence de son principe. Ce qui est incorruptible, en effet, ne peut pas périr. À ceux qui pourraient douter de l'existence du corps spirituel invisible et se demander où il réside actuellement, c'est-à-dire en acte, Jean Scott Érigène répond « Il demeure actuellement caché dans les replis secrets de la nature humaine et il réapparaîtra dans la vie future lorsque notre corps mortel se transformera en corps spirituel. » Vous le sentez, on a vraiment l'impression que le corps mortel est comme un habit. Un habit qui va être porté par le corps spirituel le temps de la vie humaine et puis être laissé sur le bord de la rive après la mort. C'est une autre manière d'écrire le platonisme, où l'idée qui est dans le corps remonte dans le ciel des idées après la mort du corps. Comment s'articule du coup ce corps spirituel et ce corps mystique ? Eh bien, je vais donner un texte de Jean Scott Érigène qui nous éclaire. Ne te paraît-il pas plus vraisemblable d'affirmer que l'homme s'est fabriqué un corps mortel plutôt que d'affirmer que c'est Dieu qui l'a créé par sa propre action, alors que Dieu l'a seulement permis et conseillé ? Car ce Dieu est immortel, et tout ce que Dieu crée directement par lui-même est immortel. Tout ce qui est mortel, c'est-à-dire tout ce qui nous paraît à la fois fragile et éphémère dans ce monde sensible, ou bien c'est nous-mêmes qui le créons quand nous sommes égarés par nos puissances irraisonnées, ou bien c'est Dieu qui nous autorise à le créer à cause de notre péché, à l'usage et à l'intention de notre vie mortelle. Je rends la parole à Chantal Jacquet pour le commentaire de ce texte. En définitive, le corps matériel n'est pas le substrat premier qui sert de support aux vêtements, que pourrait être le corps spirituel. Il est à lui-même son propre costume taillé sur mesure grâce au conseil de la providence divine afin de mortifier l'homme, de l'inciter à se repentir et à recouvrer sa dignité première. La dissemblance entre notre nature actuelle et le prototype divin n'est donc pas imputable à Dieu, mais à l'homme, car le corps mortel n'est qu'une image de l'image, une imitation lointaine et dégradée, reflétant à son tour une âme déjà miroir de la Trinité. Le corps matériel ne se réduit nullement à un oripeau superflu dont il faudrait se dépouiller pour retrouver la nudité primordiale originelle. Jean Scott Érigène ne disqualifie aucune des composantes de la nature humaine et s'efforce d'unifier les contraires. Mais vous le sentez, le schéma reste éminemment platonicien et cette idée d'image, hein, imitation lointaine et dégradée reflétant une âme qui serait miroir de la Trinité, n'est pas sans évoquer le mythe de la caverne, où, vous le savez, dans le livre de la République, Platon propose le réel comme un reflet. Hein. Ce sont des images projetées sur la paroi de la caverne, images qui ne sont pas la réalité elle-même. Pourquoi vous ai-je parlé de Jean Scott Érigène comme première émission pour penser un peu ce mystère de l'incarnation comme nouveauté radicale pour penser la relation au corps et notamment au corps mystique? C'est parce que Jean Scott Érigène apporte une réponse philosophique et que finalement sa réponse n'est pas, on va dire, spirituelle, ni mystique, ni théologique. Elle est philosophique sur un problème qui est à l'origine un problème théologique. Et pour conclure sur ce génie de Jean Scott Érigène de donner une réponse philosophique, je vais reprendre le texte de Jean Scott Érigène à partir des éléments. Vous savez qu'il y a quatre éléments en Grèce antique, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et c'est cette connexion entre le régime chrétien et le régime antique autour des quatre éléments qui donne à l'interprétation de Jean Scott Érigène sa dimension éminemment philosophique. Mais à leur tour, les quatre éléments constitutifs du monde sensible, qui restent parfaitement simples et parfaitement purs en eux-mêmes, et qui échappent au sens corporel, se laissent réduire à une unique cause simple et indivisible, que seule l'intelligence des philosophes les plus accomplis peut connaître. C'est-à-dire que les quatre éléments constitutifs du monde sensible sont réductibles à l'essence généralissime qui subsiste perpétuellement en elle-même et qui devient cause de toutes les substances qui procèdent dans des effets sensibles. Autrement dit, les quatre éléments constituent le suppôt qui sauvegarde les corps matériels et ils jouent le rôle de fondement immuable qui les unifie en une totalité homogène. Et c'est à ce titre-là que Jean Scott Érigène a pu penser cette doublure de deux corps qui naissent, qui sont constitués en même temps, doublure du corps mystique qui va continuer au-delà de la mort et doublure du corps matériel. Est-ce satisfaisant? Il ne s'agit pas de juger, mais de dire que la réponse est philosophique. La semaine prochaine, nous verrons une réponse complètement contemplative.